Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Traité Moed Katan, page 5, DAF He.
Bonjour à tous, c'est DAF est clair, Moed Katan He. La Mishnah, il a marqué qu'on a le droit de nettoyer une source, une réserve d'eau publique, mais la Gemara donc comprend qu'on n'a pas le droit de le creuser. Je dis la Gemara, c'est seulement quand, quand le public n'a pas besoin d'eau potable pendant Chol HaMoed, mais si on a besoin d'eau potable pendant Chol HaMoed, même creuser, on a le droit. Donc la Gemara, comment est-ce que tu peux dire qu'on a le droit? Arrête dans la Braïta, c'est marqué qu'on a le droit de nettoyer tout ce qui appartient à un privé, il y a plus forte raison ce qui appartient à un public. Mais on ne peut pas creuser ce qui appartient à un public, il y a plus forte raison ce qui n'appartient pas, ce qui appartient à un privé. N'est-ce pas qu'on parle d'un cas où il y a besoin et quand même c'est interdit? Nous dit la Gemara, non, on parle d'un cas où il n'y a pas besoin. Ah, nous dit la Gemara, si tu veux dire qu'on parle d'un cas où on n'a pas besoin, hein. Donc ça veut dire que le Yahid, on lui a permis, même quand il n'y a pas besoin, et pourtant on a une Braïta, il est marqué qu'un Yahid, on n'a pas le droit de nettoyer. Donc on voit qu'il n'a pas le droit. Si tu m'avais dit que dans la première Braïta, on parlait d'un cas où il avait besoin, je peux comprendre que la seconde parle d'un cas où il n'a pas besoin. Mais puisque tu me dis que la deuxième Braïta nous parle, mais puisque tu m'as dit que la première Braïta nous parle d'un cas où il n'en a pas besoin, et on a quand même permis, pourquoi est-ce que la deuxième Braïta interdirait? Et là, Mathieu nous dit la Gemara, on parle dans la première Braïta d'un cas où il en a besoin. Et bien qu'il en a besoin, on interdirait à un public de creuser. Pourtant, on a une troisième Braïta où il est marqué qu'on a le droit, on permet à un public de creuser. Donc, on n'a plus le choix de dire que la première Braïta, elle dit comme ça. On a le droit de nettoyer quand il a besoin. Et on n'a pas besoin de te dire qu'on a permis ça à un public qui en a besoin. Parce que pour eux, même creuser, c'est permis. Par contre, creuser, on interdit à un public quand ils n'en ont pas besoin. Il y a plus forte raison. On n'a pas besoin de te dire qu'un privé ne peut pas creuser, puisque même nettoyer quand il n'en a pas besoin, il n'a pas le droit. Nous dit Ravashi, notre Mishnah aussi, on peut prouver de là, puisqu'il est marqué « Kol Tzor Kerabim ». Donc, de notre Mishnah, on voit que tout est permis quand c'est pour un public, même de creuser. Nous dit la Gemara, peut-être que non. Peut-être que ça vient inclure autre chose. Comme il est marqué dans la Braïta, de nettoyer les routes, de préparer les marchés, etc., de vérifier les mikvot, s'ils n'ont pas d'eau, de les relier à une source d'eau. Et si jamais on ne s'en occupe pas, si jamais il y a eu un problème, on en sera responsable, comme il est marqué « Vayal Khadamim ». Donc peut-être que ça vient inclure, donc c'est toutes ces préparations des routes, des marchés, etc. Je dis « Oui, mais ça c'est marqué clairement dans notre Mishnah. Forcément, quand c'est marqué « Kol Tzor Kerabim », ça va nous apprendre que même creuser, c'est permis. Dans notre Mishnah, il est marqué qu'on a le droit d'être metsayen, qu'on doit le faire même pendant Chol HaMoed, d'être metsayen les kvarot, c'est-à-dire de marquer les endroits où sont enterrés les défunts pour empêcher les gens de se rendre impurs et de consommer de la tourma. D'où est-ce qu'on le sait? D'où est-ce qu'on connaît cette mitzvah-là? On dit la Gemara, parce qu'il est marqué dans le pasuk, Vera etse madame, ou vana etse lotzion. Donc on voit qu'il faut préciser. Ravina demande à Ravashi, mais avant que Yecheskel vienne, qu'est-ce qu'il nous l'avait enseigné? Pourquoi est-ce que c'est marqué que dans Yecheskel? Je dis, mais c'est quoi cette question? L'interdit d'un Kohen qui n'est pas Maoul, aussi c'est marqué dans Yecheskel. Et avant Yecheskel, comment est-ce qu'on faisait? Et là, forcément, Yecheskel est simplement venu donner un pasuk sur la halakha qu'on connaissait déjà. Pareil pour mettre un tzion. Rabbi Abba nous dit qu'on l'apprend dans notre passage qui est marqué au sujet, le Metzora Betame Tameikra. Donc il doit s'appeler Tamé pour éloigner les gens de ne pas se tromper. On dit la Gemara, mais ce passage qu'on en a besoin pour autre chose. Le Metzora lui-même doit dire à tout le monde qu'il est Tamé pour que les gens prient pour lui. On dit la Gemara, c'est vrai. Mais s'il y avait marqué que Vetameikra qu'une seule fois, tu as raison. Ça parle du Metzora, mais puisque c'est marqué deux fois, donc il y a deux Toumot qu'on doit avertir. La première Touma, c'est la Touma du Metzora qui doit avertir tout le monde pour que tout le monde prie pour lui. La seconde, c'est la Touma d'un Kever qui doit être aussi annoncé pour que les gens fassent attention. Abaye nous dit, l'Ifnei Iver, l'Otitel Machol nous enseigne qu'il ne faut pas, qu'il faut montrer où est-ce qu'il y a un danger. Alors, papa nous dit, Solu Solu Panodarech, libérer la route de toute Touma. Afrenena nous dit, Arimu Machol Miderechami, enlever tout obstacle de notre rue. Ravisha Vereda Ravidil nous dit, Velatalem et Adderech Sharil Kuba, montrez-leur le chemin à prendre. Marzoutra nous dit, Vizartem Nesra Mitumatam, fais attention à ne pas se rendre impur. Ravashi nous dit, je partais, mais je suis parti. Assumez, je suis parti, faites en sorte que les gens ne se trompent pas. Ravina nous dit, Vesam Derech, donc on doit mettre une route et rénover Shailokim. Ravisha Benevi nous ramène au sujet de ce pasouk, tout celui qui fait une évaluation de ses routes, c'est-à-dire qui pèse le pour et le contre, il verra des choses comme il est marqué, Vesam Derech, lui ne lit pas Vesam avec un signe, mais Vesham, il fait une Shamaout. Rabbi Yonah nous raconte qu'il avait un élève qui lui posait tous les jours des questions, mais quand c'était un jour qui était public, il ne posait pas de questions. Et à ce sujet, le Rav a dit, les Sam Derer, puisqu'il a su évaluer, il a su savoir quand poser des questions et surtout quand ne pas en poser, Arenu Be'esha Elohim, il a fait donc cette bracha. La Baraita nous dit qu'on n'a pas l'obligation de préciser s'il n'y a qu'un kazait d'un défunt, ou s'il y a un os qui fait la taille d'une Seora, ou alors toute autre chose qui n'a pas de pureté, d'impureté par Oel, on n'a pas besoin de préciser. Mais on doit préciser quand on a la colonne vertébrale, quand on a le crâne, quand on a la majorité des ossements, que ce soit la majorité en nombre ou en taille, on n'a pas besoin de préciser dans l'endroit où on sait pertinemment qu'il y a une impureté. On a besoin de précision. Les endroits où on a un doute. Qu'est-ce qui s'appelle doute? Srachot, parot, ou etapras. Tous les endroits qui sont proches d'un cimetière, peut-être que les gens ont enterré là-bas. Mais etapras, l'agma va expliquer après. On n'a pas, quand on fait le tzion, on ne le fait pas sur l'endroit même, on le fait à côté, parce qu'on veut avertir juste avant, mais on ne le fait pas trop loin, parce qu'on ne veut pas rendre dans toutes les parcelles d'Eretz Israël avec des endroits à doute de Touma. Nous disons, comment est-ce que tu peux dire qu'un kazaït ne rend pas Touma Béoël? Alors, c'est marqué que oui, un kazaït fait une Touma dans l'Oel. L'agma nous dit, on parle d'un cas où il y a un tout petit kazaït, c'est-à-dire juste kazaït, et donc on prend le risque qu'une personne se rende impure juste après qu'il soit enterré, plutôt que de mettre un tzion là-bas et de rendre impure toute personne qui n'aurait pas fait attention et qui serait passée par là-bas au fil des années. Qu'est-ce qui s'appelle Sfekot, Srachot ou Parot? L'Agma explique Srachot, c'est un arbre qui a du branchage jusqu'au sol. Parot, c'est des pierres qui sortent du mur. Et donc, il peut y avoir une Touma qui aurait été entourée en dessous. Metapras, c'est celui qui laboure un endroit où se trouvait un kever. Et donc, il va rendre tout l'endroit impur. C'est quoi tout l'endroit? Une longueur de 100 amas. Demande à Gmara. Mais comment est-ce que tu peux dire que Metapras est Metame Boel et c'est pour ça qu'il faut mettre un tzion? Arrive, c'est marqué. Qu'on a le droit de passer dans un Metapras en soufflant. Et Rabbi Ami nous dit qu'on a le droit de passer dans un Metapras quand il est écrasé par, quand il a déjà été habitué aux gens. Les gens se sont habitués de les écraser en tous les cas. S'il y a un risque d'OL, comment est-ce que, à quoi ça sert de souffler? Il y a quand même un risque d'OL, il y a quand même un risque de se retrouver avec des morceaux du défunt qui soient enterrés sous le sol. Donc ça ne servira à rien de souffler. L'agma, ça dépend. Il y a deux sortes de betapras. Il y a un sadé chez Avad Bakever, on ne sait pas où se trouve le défunt. Dans ce cas-là, il y a un risque d'OL. Et dans ce cas-là, Bémet, tu as raison, ça ne servira à rien de souffler. Mais dans ce cas-là, il faudra mettre un tzion. Il y a un seul endroit où Nechraj Bakever, où c'est, il y a eu, on a labouré, Bémet, il n'y a plus de rachage de OL, Bémet, il n'y a plus aucune utilité de mettre un tzion, et dans ce cas-là, tu peux passer en soufflant. Jlagmara, est-ce qu'un endroit où on a perdu un kever, ça s'appelle Betapras? Jlagmara, oui. Il est marqué dans la Mishnah qu'il y a trois sortes de Betapras. Celui où on a perdu un kever, celui où on a labouré, et Sdeborim. C'est quoi Sdeborim? Il explique à Mara, quand on amène un défunt de loin, alors on rencontrait les gens qui devaient le récupérer dans cet endroit-là, et c'est un endroit où, quand il voyait pour la première fois le défunt, il pleurait. Et quel est le risque qu'il y ait dans cet endroit, explique l'Agma, puisque ça fait longtemps qu'il est en déplacement, donc le corps a commencé à désintégrer. Peut-être que le défunt a perdu un de ses morceaux. Et les gens ne font pas attention, puisque chacun compte sur le groupe qui l'autre groupe, donc il peut y avoir un morceau de défunt qui se trouve à cet endroit. Demande l'Agma, comment est-ce que tu peux me dire qu'un endroit qui a été labouré, on n'a pas besoin de mettre un tzion? Pourtant, il est marqué que si, un endroit, il y avait un endroit où il y avait un tzion, et on ne savait pas pourquoi est-ce qu'il y avait un tzion, pourquoi est-ce qu'on a précisé. Est-ce que c'était parce que c'était labouré, ou est-ce que parce que c'était aval? On regarde. S'il y a des arbres, c'est parce que ça a été labouré. S'il n'y a pas d'arbres, c'est sûr que ça n'a pas été labouré. Abuda nous dit qu'on ne pourra jamais affirmer que ça a été labouré, seulement s'il y a un zaken ou un tamitracham qui l'affirme. Mais en tous les cas, on voit que le tzion peut être là pour deux raisons différentes. On ne va pas nous expliquer. Et nous répond qu'en vérité, on parle d'un champ où au début, le défunt a été perdu. On ne savait pas où il était. Et c'est pour ça qu'on a mis un tzion. Et après ça, on s'est posé la question, est-ce qu'il a aussi été labouré? Tout dépend s'il y a des arbres ou pas. J'ai dit, ah, peut-être que les arbres étaient plus à l'intérieur et le kever à l'extérieur. Et donc, quand on l'a labouré, on ne l'a pas labouré à côté du kever. L'agma répond, on parle d'un cas où les arbres sont à la frontière entre la rue et le sadé. J'ai dit, ok. Mais peut-être qu'on a labouré que juste à côté des arbres et que le kever était lui plus à l'intérieur n'avait pas labouré. Première réponse, l'agma nous dit mesoubachim, c'est-à-dire que les arbres sont éparpillés dans tout le champ. Deuxième réponse, on sait très bien que le tzion ne doit pas être éloigné de la touma. On parle d'un cas où le tzion se trouve près des arbres, c'est pour ça qu'on sait que ça a été labouré. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. La première chose qu'on a vu, c'est que nettoyer une source publique, c'est tout le temps permis, privé seulement s'il y a besoin. Creuser pour le public, c'est permis, creuser pour le yachid, c'est tout le temps interdit. Pour le public, c'est permis que s'il en avait besoin. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut faire un tzion? On a ramené plusieurs sources à cela. Celui qui fait l'évaluation de sa conduite, il verra des yeshuot. On ne met un tzion que sur un endroit où on a un safek, sur un endroit où on a une vadaout, on ne met pas de tzion. On ne le met pas juste à l'endroit, on le met juste à côté, pas trop loin. Un kazait d'un défunt, quand il est metzumtsam, on ne va pas mettre de tzion. On prend le risque que ça rende impur un petit moment, à condition qu'on ne va pas rendre impur sur du long terme. On a trois sortes de betapras, celui qui a été avad, celui-là, on peut supposer qu'il y a un risque d'OL, celui-là, il faut mettre un tzion, et on ne peut pas passer à travers en soufflant. Celui qui a été nechrash, alors celui-là, on suppose qu'il n'y a plus problème d'OL, et donc il n'y a pas besoin de tzion, et on peut passer en soufflant. Sdeborim, l'endroit où on va faire la livraison d'un défunt, il y a un risque d'impureté. Quand on a un safek sur un champ, est-ce qu'il a été nechrash ou pas? Ça dépend s'il y a des arbres ou pas. S'il y a des arbres et que le tzion est à côté, ou que les arbres sont éparpillés dans tout le champ, on peut supposer qu'il a été labouré, et donc il n'y a plus de problème d'Ohel, et donc on pourra passer en soufflant d'Afeklar Baruch HaShem à demain, Bezrat HaShem.